Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir tout le monde, il est 20h, vous êtes sur Radio Saint-Afrique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classics Time Machine du mois de juin, avec au micro comme toujours le Dr M pour vous accompagner dans ce voyage radio-temporel, en archives et en musique. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu d'émission au mois de mai dernier, faute de personnel technique, et c'est la faute à qui ? Eh bien, c'est la faute à Macron, quand même surtout. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que notre cher président aux allures d'agent spécial OSS 117 jupitérien a décidé de s'en prendre au monde associatif, entre autres en supprimant les fameux emplois aidés qui permettaient d'embaucher du personnel sans couler les budgets. Eh bien ici à Radio Saint-Afrique non plus, nous n'y avons pas échappé et cela s'est donc fait ressentir le mois dernier et je vous prie humblement de bien vouloir nous en excuser. Enfin voilà, c'est dit, c'est fait, mais ne vous inquiétez pas, pour compenser cette lacune, j'ai donc décidé de vous présenter ce mois-ci une version hybride de l'émission où nous partirons ensemble à cheval sur les mois de mai et de juin. Comme d'habitude, nous voyagerons en une heure chrono seulement à travers le temps en passant en revue les grands événements de mai et de juin donc, de 1954 à 1989. Nous irons en Chine, en Italie, aux États-Unis, au Vietnam et ailleurs sur la planète. Et côté musique, les classiques au programme se chargeront de l'effet de Madeleine Proust radiophonique, donc restez bien avec nous. C'est parti, on se retrouve immédiatement projeté en 1975, lorsque le 1er juin de cette année, le groupe californien des Eagles, que tout le monde connaît pour leur tube planétaire Hotel California de 1977, sort un single qui reste pour moi le meilleur, One of These Nights, un titre qui diffère de leur style country rock qui leur est familier, pour adopter ici des accents plus funky avec une ligne de basse chaude et roulante associée à des vocalises en falsetto et des harmonies typiques du groupe, et bien sûr, comme dans chaque morceau des Eagles, il y a un solo bonus à la guitare absolument sympathique au milieu. J'adore ce morceau et je dois vous avouer que c'est mon favori lorsque je suis seul au volant, cheveux au vent et que je peux m'exercer à chanter dans les très aigus sans devoir le faire subir à personne. Un morceau donc qui s'adresse à une demoiselle que le chanteur convoite en secret mais cherche en lui le courage d'aller tenter sa chance. One of these nights, comprenez, une de ces nuits, une de ces folles nuits, je t'assure que j'irai te trouver, j'irai te chercher, je suis juste derrière toi et je t'aurai par surprise. Je vois bien ce que le chanteur du groupe Don Henley voulait exprimer, mais je me demande si aujourd'hui, dans le contexte année 2018 du mouvement MeToo, sa chanson passerait sans faire froncer quelques sourcils. Il n'en reste pas moins que si vous aimez les classiques du rock des 70s, eh bien je vous conseille d'augmenter les basses et le volume de votre poste et de bien en profiter, car voici donc The Eagles en 1975 avec One of These Nights sur Classics Time Machine.
À Jérusalem, Adolf Eichmann, condamné à mort pour l'extermination de 6 millions de juifs, a pris place une nouvelle fois dans la cage de verre du palais de justice de Jérusalem. La dernière. C'était en effet pour entendre prononcer le rejet de son appel par le juge Silberg au nom de la Cour suprême israélienne. Rien ne sauverait plus Eichmann désormais. Deux jours plus tard, la grâce lui était refusée et la peine immédiatement appliquée. C'était pour la potence qu'Eichmann quittait sa cage de verre. Le bourreau a payé, si l'on peut jamais payer pour pareil crime.
Près de Tel Aviv, en Israël, le 31 mai 1962, l'ancien officier SS Adolf Eichmann monte sur l'échafaud de la prison de Ramla pour y être pendu. Adolf Eichmann a été condamné l'année passée par un tribunal israélien pour crimes contre l'humanité durant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement pour le rôle essentiel qu'il a joué dans la mise en place de la logistique de la solution finale, le nom donné par les nazis à l'extermination de masse de millions de juifs dans les camps de la mort. Eichmann, haut fonctionnaire zélé de l'État nazi, agent du SD et officier supérieur des milices SS, est nommé responsable des affaires juives et très vite sollicité par ses supérieurs, pour participer à la conférence de Wannsee en 1942, où sera décidée cette fameuse solution finale. À l'issue de cette conférence, on lui confie la gestion des transports des populations juives vers les camps d'extermination. Il effectue sa tâche avec zèle et efficacité et organise jusque dans tous les détails la logistique de la déportation. Quelles lignes de chemin de fer doivent servir, à quelle heure, quel train, le nombre de wagons, le nombre de personnes ou encore faire en sorte de répartir les trains en fonction de l'activité des camps afin de ne pas ralentir ou saturer le bon déroulement de la solution finale, tout ceci est supervisé par Eichmann. Lorsque le vent tourne en 1945, Eichmann parvient à s'enfuir et se cache pendant 10 ans à Buenos Aires en Argentine sous le nom de Ricardo Clemente. Mais après une traque déterminée du chasseur de nazis Simon Wiesenthal, Eichmann est repéré, puis kidnappé et exfiltré par les services secrets israéliens, le Mossad, dans des conditions rocambolesques en 1961. Afin de ne pas révéler son identité, on le déguise en steward de la compagnie israélienne El Al et on le bourre de sédatifs en le faisant passer pour ivre. Les soldats argentins de l'aéroport se moquèrent de cette bande d'Israéliens qui ne pouvaient pas tenir la boisson et les laissèrent passer. Le caractère totalement illégal du point de vue des lois internationales de l'enlèvement fut largement tempéré par la gravité des faits qui étaient reprochés à Eichmann et la communauté internationale ne s'opposa pas ou peu à son exfiltration lorsque la nouvelle tomba. En avril 1961, le procès Eichmann s'ouvre à Jérusalem. Ce qui fut frappant lors de ce procès, c'est le personnage Eichmann qui stupéfia les journalistes. Eichmann n'a pas le physique ni l'allure du criminel sadique nazi d'Hollywood. Il est petit, malingre, chauve et affublé de grosses lunettes à monture noire qui lui donnent un air de petit comptable sans histoire, voire ennuyeux. Ses propos diffèrent des autres dignitaires nazis. Il est calme, posé et n'exprime aucune haine. Son attitude placide et mesurée contraste avec les crimes qu'on lui reproche. Eichmann est l'archétype même du fonctionnaire dévoué qui suit les directives et les ordres qui lui sont donnés et s'affaire au bon déroulement de sa carrière. Son détachement émotionnel est effarant. Pour lui, même s'il était tout à fait conscient du sort réservé aux victimes du Troisième Reich, les Juifs n'ont jamais été qu'un nombre, une masse floue, quantifiable, logisticiable, et que l'on gère comme une marchandise, une denrée. Le sens du devoir et le souci du travail efficace semblent avoir été les seuls motifs ayant joué un rôle dans son action. Le profil d'Eichmann sera qualifié par les journalistes comme « la personnification de la banalité du mal ». À l'issue de ce procès, Eichmann est condamné à la peine maximale pour crime contre l'humanité, la mort par pendaison. Il est incarcéré un peu plus d'un an et le 31 mai 1962, un peu avant minuit, il est exécuté.
Classic Time Machine, les Saint-Africains parlent au français.
Partons un peu faire un tour en musique maintenant pour se détendre un peu, car la même année 1962, le grand Sam Cooke sortait son beau single « Bring It On Home To Me » qui fut un des plus grands succès de cet apôtre de la musique soul, très impliqué dans le mouvement des droits civiques des Noirs américains et qui, malheureusement, fut retrouvé mort à Los Angeles, nu dans sa chambre, abattu par la gérante d'un motel en décembre 1964, dans des circonstances encore toujours assez mystérieuses.
To me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Yeah,
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 yeah.
Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un commando di terroristi. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro...
Rome, 9 mai 1978. La police reçoit un coup de fil anonyme les alertant qu'une bombe a été placée dans un véhicule de type Renault 4L de couleur rouge et s'apprête à exploser près de la gare de Rome. Les policiers évacuent la zone et s'approchent avec précaution du véhicule abandonné à l'arrière de la gare. Lorsqu'ils jettent un œil dans le coffre de la voiture, ils y découvrent le corps sans vie du Premier ministre et leader du Parti démocrate chrétien italien, Aldo Moro. Son corps est criblé de 11 impacts de balles à la poitrine, il a été froidement exécuté. Le 16 mars de la même année, il avait été enlevé lors d'un kidnapping sanglant par un commando des Brigades Rouges, un groupe terroriste d'extrême gauche qui n'a alors pas hésité à abattre ses 5 gardes du corps et le forcèrent à monter dans un autre véhicule. Aldo Moro, Premier ministre, est le représentant d'une ligne centriste modérée que de la politique italienne, dans un contexte qui fut appelé plus tard les années de plomb et qui mine la vie politique du pays depuis des années. Les ravisseurs n'ont pas particulièrement quelque chose à reprocher au Premier ministre. Ce qu'ils veulent en le capturant, c'est permettre la libération de prisonniers des Brigades Rouges en échange de la vie sauve d'Aldo Moro. Mais le gouvernement et la police refusent catégoriquement toute négociation avec les terroristes et leur demande n'est pas examinée. La situation s'enlise pendant près de 2 mois et les Brigades Rouges ne savent plus quoi faire de cet otage encombrant et difficile à cacher. Quelques jours avant cette date fatidique du 9 mai, les Brigades Rouges durcissent le ton. Si leurs demandes ne sont pas examinées, Aldo Moro sera exécuté. Les autorités restent inflexibles et les lettres de supplique de Moro n'y changeront rien, les négociations n'auront jamais lieu. Le 9 mai, les Brigades Rouges mettent leurs menaces à exécution, Aldo Moro est abattu froidement et jeté à l'arrière de la fameuse 4L rouge. Lorsque la presse avance la découverte, un journaliste parvient depuis une fenêtre d'un immeuble à prendre un cliché choc du coffre ouvert du véhicule avec le corps affaissé en position demi-assise du Premier ministre à l'intérieur. Depuis ce jour-là, l'Italie tout entière peut associer une image à ces années de plomb, l'image d'un Premier ministre modéré, victime du contexte politique et de l'impuissance du système législatif de son pays.
Chasing.
Vous écoutez Classics Time Machine avec la coupe afro sur Radio Saint-Af. Et en 1978, le groupe américain Earth, Wind & Fire scorait ce hit interplanétaire avec September, qui reste aujourd'hui encore leur plus gros succès et un véritable hymne à chanter sous la douche. Ce monument du disco-funk des années 70 a néanmoins une particularité, celle d'avoir des paroles qui ne signifient absolument rien. Il n'y a aucun sens réel aux paroles qui semblent être posées juste pour le décor. Lorsqu'un journaliste le fit remarquer à Maurice White, le chanteur du groupe, celui-ci rétorqua « September est l'illustration parfaite qu'il ne faut pas laisser les paroles d'une chanson se mettre dans le chemin de la mélodie. » Autrement dit, peu importe les lyrics du moment qu'on a le groove.
Tien Bien Phu, sous le commandement du général de Castres, Tien Bien Phu résiste héroïquement aux plus violents assauts. Depuis la première attaque du 15 mars, la forteresse supporte le poids de l'étreinte de la plus grande concentration de troupes Viet. Au prix de quels efforts et de quels sacrifices ? Déjà, trois attaques générales se sont brisées, malgré des succès de détail sur les défenses centrales. L'aviation apporte chaque jour un concours efficace à la défense, et chaque jour, des combats d'avant-poste mettent à l'épreuve la résistance de la garnison franco-vietnamienne. Mais, en dépit des forces mises en jeu par les Viet, Tien Bien Phu résiste. En même temps, des appareils tracent un cercle de feu dans la jungle qui entoure le camp retranché. C'est en partie grâce à cette action que les hommes du colonel de Castries ont pu repousser quatre fois les assauts des Viet. Les journées de Genève ont pris soudain une gravité nouvelle avec l'ouverture des négociations sur l'Indochine. Ces négociations s'ouvraient à l'heure même où les éditions spéciales annonçaient à la France la chute de Tien Bien Phu, tombé après 57 jours d'une bataille sans merci, à l'heure où les héroïques soldats du général de Castres, dont on voit ici l'image, cédaient sous le nombre après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire.
La guerre d'Indochine, commencée en 1946 par le soulèvement des Vietnamiens mené par Ho Chi Minh pour leur indépendance sur les colons français au Vietnam, se termine 8 ans plus tard par un épisode traumatisant pour l'armée française, la bataille de Dien Bien Phu du 13 mars au 7 mai 1954. Dien Bien Phu est une petite localité du nord de l'actuel Vietnam, tout près de la frontière du Laos à l'ouest. Situé à environ 600 km de Hanoï, le village présente un intérêt stratégique important pour l'occupant français en assurant une présence militaire près du cœur de la rébellion Viet Minh. Les Japonais y avaient construit une piste d'atterrissage 12 ans auparavant et l'armée française compte utiliser cette piste comme point de ravitaillement aérien pour envoyer des troupes nombreuses et puissamment armées vers Hanoï et briser le mouvement indépendantiste. Depuis 8 ans, la guerre fait rage et alterne victoire française et Viet Minh. Lorsque les Français investissent la plaine de Dien Bien Phu en novembre 1953, le général vietnamien Giap ne peut rester passif et voit une chance pour ses combattants de porter un coup fatal à l'occupant. Il faut prendre Dien Bien Phu et sa piste d'atterrissage, sinon les Français pourraient envahir la capitale en masse, enterrant ainsi toute chance de faire cesser l'occupation. Les Français sont confiants et commencent vite à fortifier les collines autour de la piste en creusant des tranchées et en construisant des abris. Néanmoins, les officiers supérieurs ne prennent pas la peine de construire des abris en béton, car le renseignement leur transmet que les troupes du Viet Minh ne possèdent pas de l'artillerie lourde et que celle-ci ne pourrait de toute façon jamais être acheminée sur place et positionnée sur les collines en raison de la jungle dense autour de la plaine et du dénivelé extrême du terrain. Or, c'est là que les Français pêchent par négligence. Les Viet Minh, motivés et exaltés, font venir en pièces détachées les canons depuis Hanoï, les transportent à pied pendant des centaines de kilomètres ou sur des vélos modifiés pour porter des charges de plus de 250 kg. À flanc de montagne, ils hissent pendant des semaines les lourdes parties indémontables des canons pesant jusqu'à plus d'une tonne, le tout à la force des bras, dans la boue, munis de simples cordes. Une fois arrivés à leur position, les combattants Viet Minh creusent dans la pierre des cavernes profondes où ils installent et cachent leurs énormes canons de 155 mm. Ils resteront indétectables pour l'aviation française pendant toute la durée des combats. Lorsque le 13 mars 1954, le pilonnage des positions coloniales commence, les Français sont abasourdis par la puissance de feu vietnamienne. Leurs abris sont pulvérisés et malgré une résistance féroce, ils sont contraints au bout de quelques jours de se replier sur le quartier général et de le défendre jusqu'au bout. Très vite, la piste d'atterrissage est complètement détruite et rend le ravitaillement très compliqué. L'aviation ne peut rien et bombarde ce qu'elle peut car la jungle camoufle les troupes du général Giap et les jours de mauvais temps, très nombreux, ne permettent pas aux avions de décoller. On se contente alors de parachuter des munitions et hommes sur la zone. Les tanks, eux, sont complètement inutiles dans les terrains montagneux et escarpés. les Viet Minh ne cessent d'envoyer jour après jour des milliers d'hommes par vague sur le camp français. Ils sont 80 000 combattants indépendantistes face à 12 000 Français enterrés dans leurs tranchées. La situation devient intenable et rien ne semble démotiver les Vietnamiens. Le 7 mai, épuisés et quasiment à court de munitions, les troupes coloniales se retirent et abandonnent leur fort un par un. La plupart d'entre elles n'ont plus d'officiers et sont décimées, affamées et privées de sommeil. Sur l'heure de midi, le général français de Castries n'a plus d'autre choix que d'appeler au cessez-le-feu. La bataille aura fait 2000 morts, 5000 blessés et 10 000 prisonniers côté français et 8000 morts et 10 000 blessés côté Viet Minh. Ho Chi Minh, après 8 semaines d'assaut soutenu sur les retranchements français, obtient ainsi une victoire décisive et gagne finalement l'indépendance du Nord-Vietnam quelques mois plus tard lors des pourparlers de paix à Genève. Le pays est cependant divisé en deux, avec au nord la République populaire communiste, dirigée par Ho Chi Minh, le père de l'indépendance, et au sud par le dictateur Ngo Dinh Diem, qui bénéficie du soutien des Occidentaux. La suite, on la connaît, mais ça, c'est une histoire pour un autre numéro de Classics Time Machine. Et pour illustrer cette année 1954 en musique, j'ai choisi de vous passer le morceau incontournable de cette année qui est devenu l'hymne absolu du rock'n'roll. Je parle bien sûr de Rock Around the Clock par le groupe Bill Haley and His Comets. Alors j'entends les fins connaisseurs me dire déjà « Eh, mais attendez, cher docteur, Rock Around the Clock, c'est un tube de 1955, pas 1954. » Eh bien, ils auraient presque raison, si ce n'est que le titre fut enregistré et sorti en 1954, mais il passa à l'époque complètement inaperçu. C'est le manager du groupe qui, l'année suivante, fit ressortir le single à renfort de publicité et de démarchage, lui assurant le succès qu'on connaît. Les voici donc, Bill Haley and the Comets, 1954, avec Rock Around the Clock sur Classics Time Machine.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, times ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
François Mitterrand est élu président de la République.
Rue de Solferino, au PC de campagne de François Mitterrand, dès 18h30, on savait qu'il avait gagné. À 20h, c'est la certitude. Ils attendaient ça depuis 23 ans.
Je mesure le poids de l'histoire. Sa rigueur, sa grandeur, nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la Terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle.
Le soir du 10 mai 1981, à 20h, la France entière a les yeux fixés sur son poste de télévision. Les résultats du second tour des élections présidentielles tombent. François Mitterrand l'emporte sur le président sortant Valéry Giscard d'Estaing avec 51,76% des voix contre 48,24%. Malgré la joie de millions de Français à travers le pays, c'est une victoire pour le moins serrée et ces deux hommes, se livrant pour la seconde fois bataille au second tour, voient une fois de plus la balance pencher en faveur de l'un puis de l'autre avec une très courte avance. En 1974, Mitterrand avait perdu l'élection avec une différence de seulement 400 000 voix de moins que son rival, c'est-à-dire moins de 0,8% des suffrages. A l'époque, Mitterrand n'avait pas réussi sa soirée de débat du second tour. Étriqué dans un costume austère, semblant mal à l'aise devant les caméras, il est victime des apparences, en particulier face à l'aplomb et l'énergie de son rival Giscard d'Estaing qui, lui, crève l'écran. Pour ce débat d'entre les deux tours de 1981, on ne reprendra donc plus Mitterrand à faire deux fois la même erreur. Celui-ci s'entoure de spécialistes de la communication, dont un certain jeune Jacques Ségala, qui supervisera jusque dans les détails le déroulement technique du débat. Tenue vestimentaire sobre et élégante, plan de caméra resserré sur le visage du candidat, le ton de sa voix, la façon de tenir ses mains face à son adversaire, tout est soigneusement étudié et le débat tourne en faveur de Mitterrand. Il faut dire aussi que Valéry Giscard d'Estaing traîne deux gros boulets à ses pieds. Le premier est économique et politique, car la situation du pays ne s'améliore pas vraiment sous son septennat, et les conflits internes avec son premier ministre Jacques Chirac révèlent au public les divisions au sein de la droite française. Le deuxième est d'ordre médiatique et judiciaire. Giscard d'Estaing est empêtré depuis quelques années dans le scandale dit des diamants de Bokassa, le dictateur centrafricain, dont on a parlé lors d'un précédent numéro de cette émission, qui aurait offert de somptueux diamants au couple présidentiel en remerciement de petits services, disons personnels. Les militants du Parti Socialiste jouent de ce handicap et vont même jusqu'à placarder en place des yeux de Giscard d'énormes diamants sur les affiches du candidat. L'effet est ravageur. Ce soir du 10 mai 1981 donc, c'est toute une partie du peuple qui exulte à l'annonce des résultats. Enfin un président de gauche sous la 5ème République, du jamais vu. Les espoirs sont immenses d'un côté, les craintes sont énormes de l'autre. Tandis qu'à gauche on rêve de progrès et d'avantages sociaux, à droite c'est la panique, on croit que les riches vont être détroussés par l'État et ces derniers cherchent à la hâte à cacher leur argent en Suisse ou au Luxembourg. Et certains s'imaginent même très sérieusement que les chars soviétiques défileront au 14 juillet devant l'Arc de Triomphe. Pour les classes ouvrières et moyennes, l'espoir de voir Mitterrand changer la vie est profond. L'histoire en fera de grands déçus, mais peu importe les déceptions, les désillusions à venir et les attaques répétées sur le franc par les grandes puissances financières pour faire échouer les plans du président Mitterrand, ce soir-là, c'était le grand soir. Et qui dit 1981 dit années 80 et qui dit donc musique kitsch mais bien sympathique et je ne ferai pas défaut à ce constat puisque j'ai décidé de passer un gros tube qui sent bon le synthé et la voix féminine mais rauque de l'américaine Kim Carnes qui obtint un énorme succès avec ce titre pop entraînant qui fut d'ailleurs son seul grand succès. Il s'agit de Betty Davis Eyes bien sûr. À moins d'avoir passé toutes les années 80 cachées sous un caillou dans la forêt, il est impossible que vous ne connaissiez pas ce morceau qui a connu un petit revival il y a environ 10-15 ans lorsqu'il fut samplé par le DJ de dance music Milo. Alors si vous avez horreur du synthé, eh bien bouchez-vous les oreilles pendant 3 minutes 30. Et pour les autres, avouez-le, ce titre est un petit plaisir coupable que je vous offre avec un sourire en coin. 1981, Kim Carnes, Betty Davis Eyes sur Classics Time Machine. Enjoy! Take her.
day besides, she'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She tease you, she'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows.
Mary Yorty has just sent me a message that we've been here too long already. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Thank you very much.
President Kennedy has been shot. Is that possible?
No!
Is that possible?
No!
It is possible. He has. Not only Senator Kennedy. Oh, my God. Senator Kennedy has been shot.
That's it, Raper. Get it.
Get the gun.
Get the gun, Raper.
Get the gun.
Okay, now hold on to the guy. Hold on to him. Hold on to him, ladies and gentlemen. Hold him. Hold him.
C'est la panique. C'est la panique. Allô, c'est l'ambassadeur à Los Angeles où le sénateur Kennedy vient d'être la victime d'un attentat. Et tout ce que nous savons dans la panique qui sévit en ce moment, c'est que le sénateur a été atteint de plusieurs coups de feu, un à la hanche et un à la tête.
This is a time of tragedy and loss. Senator Robert Kennedy is dead. Dead from an assassin's bullet.
Le 5 juin 1968, à Los Angeles, aux États-Unis, alors qu'il vient de remporter l'élection primaire au sein du Parti démocrate pour aller à l'assaut de la Maison Blanche, le sénateur Robert Francis Kennedy, le petit frère de John Fitzgerald Kennedy, tient un discours de victoire à l'Ambassador Hotel devant ses militants. Il vient de battre le sénateur McCarthy dans la course à l'investiture démocrate et célèbre son succès. Durant le mandat de son frère, il avait été ministre de la Justice, puis, après l'assassinat de ce dernier, a effectué une traversée du désert en politique. Sous la présidence de Lyndon Johnson, vice-président sous JFK et intronisé à la mort de celui-ci au plus haut office du pays, Robert Kennedy, que les Américains surnomment affectueusement Bobby, s'est effacé dans un premier temps pour revenir sur le devant de la scène politique par opposition à la politique guerrière et conservatrice de l'ancien collaborateur de son frère. Johnson est activement impliqué dans l'escalade au conflit du Vietnam et mène une politique économique qui ne profite pas du tout aux classes populaires du pays. La pauvreté monte, les inégalités raciales ne font que s'aggraver, avec en 1968 l'assassinat du pasteur Martin Luther King qui cause des émeutes dans tout le pays. Bobby Kennedy a une fibre beaucoup plus sociale que son frère et fait de la lutte contre la pauvreté et l'égalité des droits entre noirs et blancs son cheval de bataille. Il s'engage vivement sur le terrain contre la guerre et gagne très vite le respect et la sympathie de ses concitoyens progressistes. Avec lui, c'est l'espoir d'une Amérique plus sociale, plus juste qui émerge. Les attentes sont énormes et ses meetings sont un succès indiscutable. lors d'un débat télévisé, par son charme discret et modeste, plus timide que son frère mais tout aussi charismatique, il pulvérise son adversaire McCarthy qui passe pour dépassé et âgé. Il aura en face de lui le candidat des Républicains Richard Nixon qui semble avoir peu de chances de l'emporter avec son programme rétrograde et taillé sur mesure pour les intérêts des compagnies pétrolières du Texas. Après 2 ans de contestations violentes sur fond de guerre du Vietnam, de lutte pour les droits civiques et d'assassinats politiques, l'Amérique voit en Bobby Kennedy une chance de retour à l'apaisement. En pleine effervescence du mouvement hippie, Bobby Kennedy est donc dans le coup. Seulement Bobby Kennedy a lésiné sur sa sécurité et emprunte lors de sa sortie de tribune à l'hôtel Ambassador un itinéraire déconseillé par son seul et unique garde du corps. Un comble lorsqu'on est le frère d'un président assassiné et de surcroît candidat à la Maison Blanche. En passant par les cuisines de l'hôtel pour saluer quelques amis, en barre de foule, un homme se faufile et tire par derrière plusieurs coups de feu sur Kennedy. Il s'effondre et c'est la panique, le tireur est maîtrisé au sol et Bobby Kennedy agonise par terre, touché à la tête. Sa femme Ethel lui tient la main tandis qu'il prononce ses dernières paroles « Est-ce que tout le monde va bien ?» Avec ce meurtre, c'est un cataclysme qui s'abat sur les espoirs des millions d'Américains. La tristesse et l'incompréhension sont énormes. Qui pouvait en vouloir à cet homme doux et généreux ? Le tireur est vite arrêté. Il s'agit d'un jeune immigré d'origine palestinienne nommé Siran Siran. Il n'en veut pas particulièrement à Bobby Kennedy, mais il déteste les États-Unis pour leur soutien indéfectible à Israël et décide de tuer Robert Kennedy car il est l'homme le plus médiatisé du moment et il espère ainsi porter au devant de la scène médiatique la situation de son pays. Il sera plus tard condamné à la prison à perpétuité. Le coup porté à l'espoir d'un apaisement géopolitique et social s'est effondré avec la mort de Bobby Kennedy. Sur le trajet en train qu'effectue son cortège funèbre, des centaines de milliers de personnes se rassemblent et jettent des fleurs au passage du convoi. L'Amérique enterre ses espoirs et quelques mois plus tard, le candidat républicain Richard Nixon, contre toute attente, remporte haut la main l'élection présidentielle.
Are you a doctor?
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
You can tell me I'm a doctor.
Bon bah pour se remonter le moral, on va s'écouter un peu de musique, non ? Allez, c'est Harry Nilsson qui s'y colle sur Classics Time Machine avec ce succès pardon, de 1968, Everybody's Talking, un titre léger et sympathique qui servit de bande originale au film de la même année réalisé par John Schlesinger, Midnight Cowboy, rebaptisé Macadam Cowboy en France et qui fut acclamé par la critique de l'époque. Le film relate les frasques et déboires d'un jeune cowboy texan sans le sou incarné par l'acteur John Voight qui s'exile dans la ville de New York pour y devenir gigolo et se lier d'amitié avec un escroc de petite envergure et boiteux joué par Dustin Hoffman. Les deux mènent une existence misérable mais se soutiennent et s'accrochent à leur rêve d'une vie facile malgré leurs conditions assez tragiques. Un très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Madame, monsieur, bonsoir. La Chine conteste le pouvoir communiste dans la rue, à ciel ouvert. Plus d'un million de personnes ont déferlé dans le centre de Pékin pour soutenir les étudiants qui font la grève de la faim et pour réclamer haut et fort le départ de Deng Xiaoping.
Ils viennent de partout, de Pékin, de banlieue, de province. Et cette fois-ci, ce ne sont plus les étudiants seulement qui demandent la liberté, ce sont toutes les classes de la société, toutes les couches de la population. Le mouvement étudiant s'est étendu aujourd'hui à tel point qu'il prend une dimension assez formidable.
Je crois qu'il y a maintenant un mécontentement général. Maintenant, nous sommes dans la rue pour supporter les étudiants et aussi pour manifester notre volonté que le gouvernement doit continuer sa réforme politique.
Des blindés foncent sur l'avenue Chang'an vers la place Tiananmen. Cette fois-ci, les ordres sont formels. Dégagez la place sous peine de cour martiale. Les chars se précipitent sur la statue symbole de la liberté, sur la foule aussi. Certains tankistes, pris de panique, perdent le contrôle de leur véhicule. Les manifestants foudragent, s'acharnent. L'armée du peuple a tiré sur le peuple. Le pouvoir a envoyé contre les manifestants des soldats, la plupart étrangers à ce qui se passe à Pékin. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie, s'est réveillée, nettoyée par l'armée.
Le 5 juin 1989 à Pékin en Chine, sur la place Tiananmen, l'armée populaire de Chine intervient brutalement et écrase le mouvement étudiant qui s'était mis en place le 15 mars pour exiger du gouvernement des réformes démocratiques et faire cesser la corruption du régime du secrétaire général du Parti communiste Deng Xiaoping. Le 15 mars, les étudiants se réunissent en masse sur la place qu'ils occupent et célèbrent la mémoire du précédent secrétaire du parti, Hu Yaobang, réformiste et limogé 2 ans auparavant par le parti, qui vient de mourir d'une crise cardiaque. L'hommage tourne vite à la revendication et les étudiants excédés par la tournure autoritaire que prend le régime commencent leur mouvement de protestation. De jour en jour, ce mouvement grandit. D'abord plusieurs milliers, ce sont rapidement des centaines de milliers, puis des millions de Chinois qui se joignent au mouvement, qui obtient la sympathie et le soutien de toutes les classes sociales d'une Chine lassée du marasme politique du pays. Ces manifestations pacifiques deviennent une véritable épine dans le pied des dirigeants communistes. La visite officielle du leader soviétique Mikhail Gorbatchev est entièrement parasitée par le mouvement qui profite de la présence de la presse internationale pour poser leurs revendications et se retrouve sous les projecteurs et l'œil des caméras du monde entier. Pour Deng Xiaoping, cette situation est devenue insupportable et mine son autorité. Début juin 1989, le ton se durcit avec les premières raids de la police qui semblent totalement dépassées et impuissantes face à la foule survoltée. Les policiers sont submergés par les manifestants et le parti décide d'envoyer l'armée pour rétablir l'ordre. Le pays entier est vite placé sous loi martiale, mais les étudiants ne se laissent pas impressionner et tiennent bon, forçant les militaires à une retraite humiliante sous les huées des manifestants. Dans la nuit du 4 au 5 juin, les ordres sont formels, il faut faire évacuer coûte que coûte la place et écraser la révolte. L'armée arrive en masse, les blindés foncent sur les étudiants et les soldats tirent à balles réelles sur les jeunes manifestants. La répression est terrible. Les affrontements sont d'une violence absolue et les manifestants ne peuvent rien faire d'autre que tenter de fuir dans une panique générale. Sans distinction aucune, les soldats tirent sur tous ceux qui bougent, les chars écrasent barricades et manifestants. Lorsque la char militaire cesse au matin, le bilan est effroyable. On compte à peu près 8000 morts, dont 2000 soldats et 6000 manifestants et plus de 7000 blessés. Amnesty International comptera plus de 4000 arrestations et des centaines de disparus dans le pays. Dans le monde, des réactions sont vives. Quasiment la totalité des pays condamnent fermement la brutalité du régime, mais ne parviennent pas à imposer des sanctions au régime de Deng Xiaoping. En Chine, c'est un coup d'arrêt net qui est porté aux réformes d'espoir de changement dans la société chinoise à court et moyen terme. Ce massacre a néanmoins eu des conséquences profondes pour la Chine, d'abord sur le plan médiatique où le régime perd beaucoup de ses soutiens, excepté la Corée du Nord et l'Allemagne de l'Est, et son image est sérieusement écornée. Sur le plan économique également, les conséquences sont lourdes avec notamment l'arrêt du financement du régime par la Banque mondiale qui refuse pendant de nombreuses années de continuer sa politique d'emprunt à la Chine. La Chine mettra environ 10 ans à se remettre économiquement de ces événements. D'un point de vue social, les plaies du massacre de la place Tiananmen restent aujourd'hui encore ouvertes. Et le sujet est totalement censuré par le gouvernement chinois aujourd'hui encore. Les jeunes générations de Chinois n'ont pour la plupart encore jamais entendu parler de cette révolte et l'évocation du sujet, en public ou en privé, est toujours strictement interdite. Alors il fallait que je trouve un morceau de circonstance à vous passer pour illustrer ces événements tragiques et ce fut pas une mince affaire, déjà parce que l'année 1989 n'est pas d'un point de vue strictement musical une année grand cru. Et il y a cependant un morceau qui sort du lot, c'est We Didn't Start the Fire de l'américain Billy Joel. Alors je précise que musicalement parlant, ce morceau est assez médiocre et daté et je ne l'écoute pas en boucle dans ma voiture ni sous la douche. Néanmoins, ce titre aurait pu être l'hymne de cette émission Classics Time Machine car Billy Joel utilise un style particulier qu'on appelle du name dropping, c'est-à-dire qu'il balance des noms, des personnalités ou d'événements historiques allant des années 50 à la fin des années 80. Il y mentionne d'ailleurs pêle-mêle à peu près tous les sujets que nous avons traités au cours des précédents épisodes de cette émission, par exemple l'assassinat des Kennedy, Spoutnik, la mort de Buddy Holly, Fidel Castro, le débarquement de la baie des cochons, le meurtre de Malcolm X, etc. Et même des sujets de cette émission avec notamment la chute de Dien Bien Phu, le procès Eichmann et même la répression sur la place Tiananmen. Si vous ouvrez bien vos oreilles, vous faites abstraction du style musical assez bruyant et bombastique, vous pourrez l'entendre par vous-même. Voici donc Billy Joel en 1989, We Didn't Start the Fire sur Classics Time Machine.
the martial law. Rock and roll and cola wars, I can't take it anymore.
We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, but when we are gone, will it still burn on and on and on and on and on and on? We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no, we didn't let it the fire. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning.
5 juin à l'aube. Les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs.
La guerre des six jours, ou l'histoire d'une escalade diplomatique et militaire au Proche-Orient, sous fond de guerre froide. En l'année 1967, les tensions déjà exacerbées entre Israël et ses voisins arabes prennent un tournant radical qui mène à une inévitable guerre. Depuis la déclaration d'indépendance de l'État hébreu en 1948, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie sont en conflit quasi permanent avec l'État hébreu. Aucun de ces pays ne reconnaît Israël et sa volonté expansionniste mène souvent à des conflits armés qu'Israël gagne coup sur coup grâce au soutien militaire et économique de l'Occident et notamment des États-Unis. L'URSS, en quête d'influence dans la région, s'allie économiquement avec les pays arabes et leur apporte un soutien militaire croissant. Lorsque le président égyptien Gamal Abdel Nasser, lassé des humiliations et des menaces économiques des Israéliens, décide d'organiser le blocus du port israélien d'Eilat près du Sinaï, Israël commence à mobiliser ses troupes à la frontière. La Syrie, alliée de l'Égypte, se met aussi en ordre de bataille. Ils sont encore furieux du détournement des cours d'eau par l'État hébreu pour alimenter le lac de Tibériade en Israël et qui met en péril l'approvisionnement en eau du pays. Israël sait qu'un conflit est inévitable à court terme et décide, le 5 juin 1967, sans prévenir, d'attaquer le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien et envoie une missive à la Jordanie lui demandant de rester neutre dans le conflit et de ne pas intervenir sous peine de représailles. Outrés, les Jordaniens rejettent ces menaces et déclarent la guerre à Israël. Mais l'attaque surprise des Israéliens et les bombardements efficaces des bases aériennes arabes anéantissent l'aviation égyptienne et détruisent les blindés syriens et jordaniens. L'intensité des combats est impressionnante et des batailles énormes de chars ont lieu dans le désert. Mais la supériorité de leur matériel et la stratégie des Israéliens font très vite pencher la balance en leur faveur. Les forces arabes se replient partout et Israël gagne le cœur du Sinaï, occupe le Golan et envahit la Cisjordanie, la bande de Gaza et prend même la ville de Jérusalem. Le 11 juin 1967, 6 jours après le début du conflit, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie demandent un cessez-le-feu. La défaite est cuisante, Israël joue de sa position de force et occupe toutes les régions conquises malgré une condamnation sans équivoque des Nations Unies. Ces dernières adoptent vite la résolution 242 qui somme Israël de rendre les territoires occupés. Le Sinaï sera occupé jusqu'en 1974 et à ce jour, le Golan syrien a été unilatéralement annexé par Israël, tandis qu'une grande partie de la Cisjordanie, aujourd'hui encore, est occupée au mépris du droit international.
Gives you, don't do anything at all. chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you.
Court mais efficace, c'était le groupe américain Jefferson Airplane en 1967 avec White Rabbit sur Classics Time Machine. Un titre de rock psychédélique dans lequel la chanteuse Grace Slick évoque le monde surréaliste du roman de Lewis Carroll, Alice in Wonderland, Alice au Pays des Merveilles en français. Elle énumère les passages marquants du livre où la jeune Alice est confrontée à des personnages fantasques qui semblent tous être sous l'emprise de drogues hallucinogènes ou à l'inciter à en consommer. Il est vrai que Lewis Carroll était lui-même assez coutumier de ces pratiques et il est indéniable que son roman est une sorte de compte-rendu de ses propres expériences avec ces substances. Un thème qui cette année-là, en plein mouvement hippie, inspira donc Jefferson Airplane avec ce White Rabbit. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et je vous donne rendez-vous déjà dans un mois, le 25 juillet à 20h, pour un prochain numéro de Classics Time Machine sur Radio Centrafrique. Cette émission, comme toujours, a été écrite, réalisée, montée et présentée par votre érudit de service, le Dr M, ça c'est moi. Et à la technique, aujourd'hui, comme d'habitude, c'était notre indispensable Clément que je remercie pour son savoir-faire. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, si vous en avez envie, sur notre site radiocentafrique.com, autant que vous le voudrez. Quant à moi, je vous souhaite un agréable début d'été et je vous dis à dans un mois. D'ici là, surtout, comme d'habitude, restez classe.
Who is that? I'm the doctor!
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.